Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Geoffrey Carvalinho, conseiller régional d'Île-de-France, délégué spécial chargé de la jeunesse, de la promesse républicaine et de la vie associative, conseiller municipal d'opposition à Pantin. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous appartenez à la majorité de droite et du centre au sein du conseil régional d'Île-de-France. Qu'en est-il des résultats au municipal en Île-de-France du point de vue de votre courant politique ?
Bah écoutez, suite aux élections municipales, c'est plutôt des bons scores qui ont été enregistrés pour la droite et le centre, notamment en Essonne, notamment dans le Val-de-Marne, avec des renforcements dans les Yvelines et aussi, bien évidemment, dans les Hauts-de-Seine. Et quand on regarde aussi, il y a un recul du Rassemblement national, notamment en Seine-et-Marne, avec vraiment la droite et le centre qui est bien ancrée. Et puis des départements populaires comme la Seine-Saint-Denis, où on reste en fait présent, parce qu'il y a eu quelques défaites symboliques qu'on met en avant dans les médias, mais quand on regarde, on est plutôt sur un plateau haut, parce qu'avant 2014, il y avait 11 à 12 villes de la droite et du centre. Aujourd'hui, on reste à peu près sur 17 à 18, donc on est toujours présent, alors qu'en Seine-Saint-Denis, bah, vous avez un grand nombre de députés, ils sont tous de gauche, 9 LFI, 2 PC, 1 PS, dans l'accord du nouveau fonds populaire. Le grand regret, c'est Paris, bien évidemment. C'est dommage qu'on n'a pas su faire dès le début l'union autour de Rachida Dati, parce que Rachida Dati, c'est un profil qui parle notamment à nous, les élus de Seine-Saint-Denis et au quartier populaire. C'est une femme courageuse, extraordinaire, et qui avait les bonnes solutions pour Paris et qui aurait été super, en fait, pour nous, les banlieusards, parce qu'on aurait travaillé main dans la main avec la ville de Paris.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquez-vous sa défaite, vous qui la souteniez ?
Je pense que c'est vraiment la division de notre camp, qui est plus de multiples candidatures. Et face à cela, la gauche s'est surmobilisée. Et je pense que Rachida Dati méritait d'être la maire de Paris. Ça aurait été un symbole immense de voir Rachida Dati à cette place. Et d'autant plus qu'elle aurait travaillé sur les sujets de sécurité, sur les sujets de propreté, sur les sujets de refaire les portes de Paris. Nous, vous venez à la porte de la Villette, c'est une honte. Je l'ai mis en avant dans ma campagne municipale à Pantin, de montrer ce qu'étaient les entrées de ville entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Il faut vraiment que ça cesse cet état, qu'on travaille. Et elle avait vraiment des solutions concrètes, parce que c'était une femme de terrain, c'était une femme qui allait à la rencontre de tout le monde, qui était à l'écoute, et je pense que Paris a loupé quelque chose. Maintenant, il y a un nouveau maire de gauche, ce n'est plus Anne Hidalgo, il faut le juger sur l'acte. D'ailleurs, Valérie Pécresse lui a tendu la main, parce que jusqu'à présent, vous le saviez, entre la région Île-de-France et la mairie de Paris, c'était compliqué. À lui de saisir cette main tendue de Valérie Pécresse sur un certain nombre de sujets, comme la transition écologique, aussi qu'il y ait moins de bruit autour du périphérique, qu'on refasse également ses portes, ses entrées de ville sur la banlieue. Et en tout cas, du côté de la région, il y a eu une main tendue de Valérie Pécresse.
Geoffrey Carvalinho, l'Assemblée nationale doit examiner un projet de loi visant à élargir les prérogatives des policiers municipaux, qui pourraient bientôt être autorisés adresser des amendes pour plus d'une quinzaine d'infractions. Le texte est passé au Sénat. Laurent Nunez a présenté le projet de loi baptisé Riposte, qui vise à répondre immédiatement aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. Vous qui êtes un élu de terrain, pourquoi faut-il un nouveau cadre législatif pour répondre à la délinquance du quotidien ?
Il faut absolument ce cadre, parce qu'aujourd'hui, la police de proximité réelle, c'est les polices municipales. Ça, c'est clair, net et précis. Tous les maires à qui vous discutez, les professionnels de sécurité vous disent, voilà, aujourd'hui, la proximité doit se faire par les polices municipales. Il faut leur donner plus de prérogatives pour être beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, la délinquance, elle évolue sur plusieurs sujets, sur bien sûr le narcotrafic. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille collectivement pour pas que nos quartiers soient gangrénés par ce narcotrafic. Et en plus, dès le plus jeune âge, parce que souvent, eh bien, ces narcotrafiquants vont chercher notre jeunesse et l'emmènent dans ce sens, alors qu'en fait, on peut donner à notre jeunesse en fait, les outils pour réussir. Et de l'autre côté aussi, bah, c'est toute cette délinquance du quotidien. Moi, je prends un exemple, c'est ce qu'on appelle les vendeurs de cigarettes à la sauvette. Moi, à Pantin, j'ai le secteur des Quatre Chemins, le secteur de Hoche, la gare de Pantin, et on a à peu près 80 à 100 points en Ile-de-France de vente. Ça, c'est de la délinquance du quotidien. Et donc là, il faut plus de prérogatives pour nos polices municipales dans l'intérêt de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on l'a remarqué globalement, c'est qu'en fait, quelles que soient les tendances politiques des uns et des autres, eh bien, la sécurité est la première préoccupation des Franciliens, mais aussi des habitants qui, il y a quelques années, ne pensaient pas que ça allait devenir leur priorité. Aujourd'hui, ça l'est. Je pense notamment à beaucoup de femmes qui se plaignent quand elles font des footings, eh bien, qu'elles sont embêtées par des hommes qui les regardent mal, etc. Donc là aussi, les polices municipales peuvent travailler sur l'égalité femmes-hommes et éviter des violences sexuelles. Et donc, tout cela, on espère que ça passe au niveau du Parlement. Et ensuite, après, ce sera au maire de décider s'ils déploient ou pas eh bien, les prérogatives qui seront autorisées.
Et il faut prendre en compte des phénomènes nouveaux, récents en tout cas, qui gâchent la vie quotidienne des habitants dans certaines villes. L'usage du protoxyde d'azote, les rodéos urbains ou encore les tirs de mortier.
Exactement. Le protoxyde d'azote, c'est vraiment une catastrophe. Et nous, on est en train de le réfléchir à la région Île-de-France, de montrer les dégâts que procure chez les jeunes le protoxyde d'azote. Il y a aujourd'hui des jeunes qui se retrouvent en situation de handicap parce que, eh bien, ils ont consommé du protoxyde d'azote. Il y a des accidents de la route, des vies brisées. Il faut vraiment faire prendre conscience au collège et au lycée que c'est un mauvais produit et que c'est néfaste pour leur santé. Il peut y avoir des dégâts majeurs. Et puis, c'est vrai que les tirs de mortier, les mobilettes, le bruit la nuit, il y a des gens aujourd'hui, c'est une réalité, qui n'arrivent pas à dormir avant 3h, 4h du matin, parce qu'en bas de chez eux, bah, y a des gens qui mettent de la musique à fond, qui font du bruit toute la nuit, et ils doivent se lever à 6h du matin pour aller travailler. Et d'autant plus que, notamment dans nos quartiers populaires, eh bien, quand vous n'avez pas encore eu dans certains logements des rénovations thermiques par des bailleurs, et que en fait, vous êtes obligé de fermer la fenêtre en pleine canicule, pour pouvoir dormir, pour pouvoir vous lever, pour travailler le lendemain matin, c'est compliqué. Donc tout ça, c'est une mutation de la délinquance. Parfois, c'est même compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de prévention et de quartier qui vont voir en fait ces personnes qui, la nuit, font un peu de bruit, tirent des mortiers, etc., pour leur expliquer, bah, écoutez, c'est pas le bon endroit, parce qu'en haut, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des gens qui se lèvent le matin. Et donc, il faut vraiment qu'on ait les outils pour faire de la prévention, mais aussi pour agir en conséquence, notamment la nuit. Et là aussi, je pense que beaucoup de maires vont pouvoir, et je l'ai vu dans les propositions, déployer des brigades de nuit de la police municipale, parce que malheureusement, parfois, le soir, eh bien, nos commissariats sont pas assez remplis, donc il n'y a pas beaucoup de sorties pour cette petite délinquance du quotidien qui empêche les gens de dormir. Et donc là, c'est à la police municipale de prendre le relais, d'être complémentaire, et donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir avancer et qu'on va continuer, en tout cas nous, la région Île-de-France, à aider les mairies à développer leur police municipale à travers notre bouclier de sécurité.
Geoffrey Carvalino, à Saint-Denis, le nouveau maire LFI Bali Bagayoko veut désarmer la police municipale, contrairement au nouveau maire LFI de Roubaix, Vénissieux, Vaux-en-Velin ou Creil. Que vous inspire cette décision du maire de Saint-Denis ?
Alors, je viens de voir qu'il, pas plus tard que ce matin, il a un peu changé d'avis en disant que finalement, en 2033, il y aura peut-être encore quelques policiers qui seraient armés. Donc, c'est à lui de préciser en fait sa pensée. C'est est-ce qu'il enlève complètement l'armement ou une partie ? Moi, je pense qu'il ferait une erreur parce que c'est-à-dire que s'il fait ça, c'est un mauvais signal envoyé en fait à celles et ceux qui défient la République. Et puis ensuite, il aura un départ massif de ces policiers municipaux. Moi, je suis élu de la commune de Pantin. Aujourd'hui, ils ont du mal à recruter. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas armés à la ville de Pantin. J'ai échangé notamment avec les syndicats de policiers municipaux qui m'ont dit bah, « si on n'arme pas, bah, on n'arrivera pas à attirer ». Parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de les protéger, parce qu'ils peuvent devenir des cibles. Et puis aussi, c'est une forme d'autorité républicaine et on doit protéger en fait ceux qui nous protègent, et c'est tout à fait normal. Et je reprendrai même une proposition que porte depuis des années Valérie Pécresse, c'est que toutes les villes de plus de 10 000 habitants devraient avoir une police municipale obligatoire et armée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une complémentarité entre la police nationale et la police municipale, qui est vraiment la police de proximité, et d'autant plus c'est elle qui va connaître les acteurs de terrain, c'est elle qui va faire de la prévention, c'est elle qui va aller dans les écoles, c'est elle qui va faire des journées police-population. Donc pour moi, ça devrait être un non-sujet aujourd'hui, l'armement de la police municipale, d'autant plus que, pour rassurer tout le monde, parce que je sais que parfois ça peut angoisser quelques personnes de dire « moi je ne suis pas pour la police municipale armée parce qu'il pourrait y avoir des dérives », mais pas du tout, parce qu'en fait la formation aujourd'hui à l'armement des policiers municipaux, elle est encore plus aboutie que celle de la police nationale, et dure des mois, et on ne met pas une arme dans la main de n'importe qui. Et regardez aussi ce qui se passe depuis une dizaine d'années, il n'y a pas d'incident lié aux policiers municipaux, sauf en cas de défense majeure qui aurait pu coûter la vie à nos policiers municipaux.
Geoffrey Carvalino, il y a cette question autour de l'armement de la police à Saint-Denis, mais Bali Bagayoko est par ailleurs victime de propos racistes de la part de personnalités publiques ou par des anonymes sur les réseaux sociaux, des propos condamnés par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Vous qui êtes en charge notamment de la promesse républicaine au sein du Conseil régional, comment expliquez-vous ce racisme qui s'exprime désormais ouvertement ?
Je ne l'explique pas. Pour moi, c'est intolérable que Bali Bakayoko soit victime de propos racistes. D'autant plus que lui-même, à titre personnel, quand on regarde son parcours, il est magnifique. C'est un enfant de Saint-Denis qui est devenu maire d'une commune de plus de 100 000 habitants, qui est cadre dans une grande entreprise publique et qui est en plus entraîneur de basketball. Après, moi, je ne partage pas ses idées politiques. Pas du tout, mais on ne peut pas, en fait, aujourd'hui, catégoriser les gens en République française. Le racisme est un délit, je le condamne fermement et je lui apporte mon soutien personnel et humain quand il reçoit des attaques aussi ignobles. Et aujourd'hui, on ne devrait pas entendre ce genre de propos, à la fois à la télévision comme sur les réseaux sociaux.
Lors de la soirée du second tour des municipales, des insultes, des actes d'intimidation ont visé certains maires qui avaient perdu les élections. Les vidéos ont beaucoup circulé. Est-ce qu'il faut voir ça comme un épiphénomène ou bien cela nous renseigne sur le climat qui règne actuellement sur la scène politique française ?
Déjà, je voudrais apporter mon soutien personnel et humain à tous ces maires qui ont vécu de ces scènes atroces, non humaines, parce que vous vous rendez compte, vous avez servi vos concitoyens pendant 6 ans, voire beaucoup plus. Vous avez donné de votre temps, vous avez perdu du temps personnel avec votre famille. Vous avez tout donné et vous vous faites insulter, lyncher sur la place publique. Ça ne devrait pas exister dans une démocratie. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça parce que voilà, ce n'est pas une image qu'on doit de la démocratie. La démocratie, c'est y a le débat, y a les concurrents et à la fin, on se serre la main. C'est ça, la République. Et donc, oui, ça dit peut-être quelque chose aujourd'hui de notre société, du climat actuel politique. Et donc, il va falloir répondre très fermement face à de tels agissements pour que l'autorité républicaine et que la démocratie soient respectées. Mais ce n'est pas la première fois que ça se produit. Moi, j'ai vu en 2020 aussi des maires subir ces mêmes genres de violences avec des insultes, avec des invectives, avec, comme ça s'est passé aussi, de la famille menacée. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans le monde des réseaux sociaux, on est dans le monde qui va vite, où on regarde tout. Et donc aujourd'hui, c'est plus en avant qu'avant. Mais ça a déjà existé, je l'ai déjà vu. Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit mis en avant, ça peut aussi nous permettre de réagir très rapidement et fermement face à ce genre de comportement pour pas que ça se reproduise. Et même, je voyais dans ces images cet effet de meute, en fait, envers une personne ou quelqu'un. Et d'autant plus que je vais vous dire quelque chose, pour avoir discuté avec des gens qui connaissent bien les villes où ça s'est produit, bah peut-être que les mêmes auraient fêté la victoire de celui qui a perdu. Il y a un phénomène à comprendre, ce côté « je vais vers le plus fort et je lynche le perdant ». Et en fait, il y a peut-être quelque chose à revoir dans l'esprit républicain de dire « bah non, aujourd'hui, on peut gagner, on peut perdre, mais on reste respectueux ». Et on n'a pas à avoir un comportement comme celui-ci envers des personnes qui viennent de perdre. Justement, c'est peut-être vers celui qui a perdu qu'on devrait avoir le plus de soutien humain et peut-être le remercier de ce qu'il a fait pendant toutes ces années et ce qui lui permettra aussi de se reconstruire plus facilement parce qu'on ne parle pas assez de l'état mental des élus. Il y a eu des élus qui ont fait des burn-out et qui ont dû prendre du recul et ils ont eu le courage de le dire. Mais moi, je peux vous assurer que d'autres maires ont eu ces mêmes problèmes aussi. Et quand vous avez une défaite pareille et qu'en plus vous vous faites lyncher, vous vous faites insulter, bah, pensons aussi à la reconstruction de celles et ceux qui perdent et qui ont tant donné de leur vie et de leur temps personnel pour leurs concitoyens.
Merci Geoffrey Carvalino. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, délégué spécial chargé de la jeunesse, de la promesse républicaine et de la vie associative, conseiller municipal d'opposition à Pantin. Merci.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.